Genève tire les gages de sa célébrité, de la présence des organisations internationales, des conventions et initiatives qui portent son nom. C'est un paradoxe étonnant, Genève, c'est une ville très cosmopolite, mais en même temps, ce cosmopolitisme du monde, des organisations internationales, fonctionne largement sur lui-même. Il y a aussi un métissage et un mythe. Et aujourd'hui, avant de reparler de plusieurs passages historiques jusqu'au développement des contre-cultures à Genève, nous allons commencer par le mythe. Le mythe de Genève, qui est né à la fin du XVIIe siècle et qui a été repris, le premier était celui de la Rome protestante, ville sainte pour les réformés et repère d'abomination pour les catholiques. Et les penseurs français, qui étaient à la tête du mouvement intellectuel européen, ont fait de Genève une ville modèle où sont incarnées les vertus qui louent la raison et la sagesse. Les gens sont travailleurs et instruits, les règles de gouvernement empreintes de bon sens. La religion même, débarrassée du surnaturel et insistant sur la morale, est devenue philosophique et tolérante en oubliant tout fanatisme. C'est un phénomène que Desislava Damianova a étudié avec le célèbre professeur grand historien de Genève, Alain Dufour.
Le mythe de Genève, voilà déjà le terme que j'emprunte à Alain Dufour, notre invité auteur de nombreux ouvrages, et plus spécialement justement à cette étude éponyme parue aux éditions Dron en 1966, ensemble avec une autre étude de humanisme et réformation. C'est un grand historien de Genève réformé. Alors, Monsieur Dufour, le mythe de Genève s'est créé assez spontanément, comme tout mythe peut-être. C'est le produit de la conscience collective, c'est le fruit d'un peuple qui avait la claire conscience de participer à une aventure spirituelle unique. Et vous dites dans votre ouvrage que dans l'exemple genevois de la création d'un mythe, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les autochtones tellement qui créent le mythe, les autochtones genevois, mais les nombreux réfugiés venus de la France, de l'Italie, des Pays-Bas ou encore de l'Écosse. Je voudrais vous demander comment Calvin, le grand iconoclaste, réagissait face à ce risque de mythification quand même.
En effet, le mythe de Genève a pris naissance au moment où Genève a joué un rôle international, c'est-à-dire au moment même de la réforme et surtout de l'arrivée de Jean Calvin dans ses murs, qui a donné à la réformation genevoise un caractère beaucoup plus développé et complet que les réformations qui s'étaient installées dans les autres villes. Et le premier personnage qui a contribué à la naissance du mythe de Genève, à mon avis, c'est le cardinal Sadolet. Comme vous disiez très justement, ce sont des personnes étrangères à la ville et qui voient cette ville de loin et qui leur paraît incarner l'endroit où la réforme est la plus complète. Pour le cardinal Sadolet, qui était cardinal archevêque de Carpentras dans le midi de la France, il s'agit évidemment d'une catastrophe. Cette réforme ne lui plaît pas du tout, il la trouve très critiquable, et il a adressé une lettre imprimée au peuple de Genève en leur disant « Ce n'est pas possible que vous négligiez pareillement ce qui était la religion de vos ancêtres, vous n'allez quand même pas croire ou nous faire croire que tous vos grands-parents et arrière-grands-parents n'étaient pas des vrais chrétiens, n'étaient pas des bons chrétiens, ils l'étaient tout à fait, et c'est une erreur que de s'éloigner de l'Église romaine, etc., etc. » Alors, voilà les Genevois pris à partie par un grand personnage, assez célèbre à l'époque, et se demandant ce qu'ils allaient faire et sont un peu éberlués de se trouver dans cette situation complètement inattendue, eux qui étaient des marchands, qui continuaient tranquillement leurs affaires dans leur petit coin, entre la Savoie et la France, et les voilà tout à coup pris à partie dans une tribune internationale. Alors, ils se sont adressés à Calvin qu'il venait d'exiler à la suite d'une dispute, mais dont nous n'allons pas parler maintenant parce que c'est une autre histoire. Il était en séjour à Strasbourg et Calvin n'a pas hésité une seconde à se charger de répondre au cardinal Sadolet avec des arguments frappants, démonstratifs et écrasants les uns après les autres, et en disant à ce cardinal: pourquoi est-ce que vous vous adressez au peuple de Genève en faisant semblant de le connaître depuis longtemps, alors que vous n'avez jamais eu affaire à lui? En effet, il commence son épître au peuple de Genève en disant: nous sommes voisins, moi qui suis évêque de Carpentras, vous qui habitez Genève, une ville qui est aussi sur le Rhône. Mais évidemment, c'est vrai que c'était une manière aimable de s'adresser aux gens, mais qui était purement politesse, qui n'avait aucune réalité. Donc, on voit tout de suite Calvin réagir au mythe, et il y réagira toujours d'une façon négative et critique. Parce que Calvin était un homme de pensée très rigoureuse, et il se méfiait évidemment de ce qu'un mythe peut avoir de vagues, de nébuleux, de frappant les imaginations, alors que lui voulait frapper les esprits.
Mm-hmm. Oui. Pourtant, ce mythe de Genève n'aurait pas existé sans Calvin lui-même. Il formait plus ou moins un couple mythique, et dans ce couple mythique, les scènes de ménage assez banales ne manquaient pas. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de ce lien très spécial entre Genève et Calvin, un lien qui avait tout sauf une dimension vraiment affective?
Effectivement, vous avez raison. Calvin et les Genevois ont eu de la peine à s'entendre. Ce sont assez bien entendu dans beaucoup de cas, mais il restait chez Calvin une sorte de critique permanente à l'égard des Genevois qu'il ne trouvait pas assez soumis aux indications de la morale. Chrétienne, la morale chrétienne la plus sévère. Il aurait voulu que cette ville fût absolument une ville modèle. Eh bien, il continuait à y avoir des gens qui ne pensaient qu'à boire et manger, d'autres qui voulaient taquiner telle jolie femme qu'ils avaient rencontrée dans la rue ou dans une autre circonstance. Et tout ça paraissait répréhensible à Calvin, et qui le leur reprochait. Et sur son lit de mort encore, Calvin s'est adressé aux Genevois en leur disant, ce qui est très sévère: vous êtes une nation malheureuse et perverse.
Oui, en imitant peut-être un tout petit peu le Christ, puis Moïse, j'ai cette impression.
Exactement, les prophètes de l'Ancien Testament qui n'y allaient pas par quatre chemins pour critiquer leurs concitoyens.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, lorsqu'on parle de ces deux grands bergers bibliques, le judaïque Moïse, le chrétien, bien sûr, le Christ, vous auriez rapproché Calvin auquel des deux, aux juifs ou bien à l'autre juif qui était le Christ?
Bien sûr, il faut penser d'abord à l'exemple du Christ et à l'enseignement du Christ, dont Calvin a été un porte-parole éminent. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments de l'Ancien Testament qui sont présents chez Calvin, et notamment dans son attitude à l'égard de la politique. Quand il pensait qu'il était chargé par Dieu, en somme, de venir rappeler aux magistrats genevois les principes qui devaient inspirer leur politique, il leur parlait au nom de la Bible et de ce que disait la parole de Dieu, et par conséquent, les magistrats avaient là des arguments qu'il fallait bien digérer, auxquels on ne peut rien rétorquer, quand on est un magistrat chrétien, bien sûr. S'il avait affaire à des magistrats laïcs comme il y a aujourd'hui, évidemment, on lui aurait ri au nez.
Oui. Et pour revenir au processus de l'élaboration du mythe, vous dites dans votre ouvrage que le mythe se crée d'habitude de deux acteurs principaux mythologisants. C'est le peuple, bien sûr, la grande masse du peuple qui, en ce moment-là, réagit, ou bien agit plutôt, d'une manière monolithique, homogène, et qui est surtout le consommateur du mythe, mais aussi, en quelque sorte, le créateur. Et puis, quelques figures à part, les chantres pour ainsi dire, qui glorifient, qui exaltent les vertus de la ville ou bien du pays mythifié. Vous dites qu'on ne peut pas vraiment évaluer la part du peuple, la part de ces chantres-là, de ces apologètes, mais... et puis vous donnez l'exemple avec un autre cas, une autre ville qui en 16e, 17e siècle voulait s'ériger en ville symbole, c'est Venise, pour toute autre raison bien sûr. Venise, on voulait se présenter comme le modèle d'une synthèse inédite jusqu'alors de démocratie, de monarchie et d'aristocratie. Et puis Venise avait ses chantres vraiment exquis qui la glorifiaient, qui l'immortalisaient avec tout le raffinement digne de la Renaissance italienne. Tandis qu'à Genève, déjà, la question avec les arts est très délicate. Je voudrais vous demander s'il y a quand même une création purement artistique pour exalter la ville-église, tout en ayant vu toutes les réserves calvinistes au sujet des arts, des belles-lettres.
Oui, je vais d'abord parler en effet du cas général. Pour qu'un mythe prenne naissance, il faut en effet que une ville, puisque nous parlons du mythe d'une ville ou d'une autre ville, une ville soit connue à l'étranger. Or, au Moyen-Âge, personne ne connaissait Genève, au loin, ou très peu. C'était une ville de foire, les marchands la connaissaient, mais les autres gens savaient à peine où c'était. À partir de la Réformation, tout à coup, voilà Genève projetée sous les feux de la rampe, si l'on peut dire, et remarquée par tout le monde. En bien ou en mal, n'est-ce pas? Soit une attitude d'admiration, soit une attitude de critique. Et il faut dire qu'il y avait des réfugiés qui arrivaient de partout et qui cherchaient à se rendre à Genève, parce que Genève était la ville la plus au sud de toute l'Europe protestante. Au sud de Genève, il n'y a que des petits groupes protestants dans des pays catholiques.
C'est vrai.
Alors, quand ces petits groupes sont persécutés, ils sont obligés de s'en aller de chez eux. Et le premier endroit où ils se rendent, c'est à Genève, parce que c'est le premier endroit sur le chemin de la liberté. Et beaucoup d'entre eux essayaient de rester à Genève, d'autres allaient plus loin, en Suisse, à Berne, à Zurich, ou en Allemagne, au Palatinat, ou en Prusse, suivant les circonstances. Donc, il y a des réfugiés, il y a des protestants qui éventuellement pourraient un jour être obligés de devenir des réfugiés. Tous ceux-là savent très bien ce qu'est Genève et ce que ça représente à leurs yeux. Ce n'est pas, bien sûr, la ville du jet d'eau, il n'y avait pas de jet d'eau, ni même une ville située dans un paysage très joli entre un lac et des montagnes. Ça ne leur paraissait pas le plus important, mais c'est la ville où on pouvait entendre les sermons de Monsieur Calvin et la parole de la Bible exposée purement et librement, sans obstacle. Voilà ce qui attirait les gens. Alors, quelques auteurs, en effet, il y a eu des chantres, comme Vergerio, par exemple, un réformé italien qui a écrit un petit livre pour décrire la cité de Genève en termes absolument dithyrambiques. Et il y en a eu d'autres, il y a eu des poèmes, des pamphlets, j'ai cité, je crois, les vers de Jean Tagot en tête du livre des martyrs, qui décrit cette ville protégée par des légions d'anges. Et alors on comprend que les légions d'anges, dans son imagination, c'est la neige qu'on voit sur le sommet des montagnes qui entourent la ville. Bref, il y a le contre-mythe, il y a ceux qui critiquent Genève et qui disent que c'est la sentine de toutes les hérésies, pour employer une de leurs formules particulièrement peu aimables mais très souvent utilisées, et qui prétendent que c'est un endroit où on fait tout ce qu'on veut, où on n'a pas besoin d'obéir au commandement de l'Église, donc on se livre à la débauche en toute liberté, enfin toutes sortes de choses affreuses et très peu vraies. C'est ainsi qu'il s'élabore une littérature qui est de nature en effet très souvent populaire, parce qu'elle s'adresse un peu à tout le monde. Et nous avons déjà vu que Calvin savait très bien réagir à cela et le critiquer. Et vous avez cité le cas de Venise, qui est un autre cas de ville mythe, et qui est au XVIe-XVIIe siècle, représente la ville par excellence qui est bien gouvernée, par une constitution très savante, avec force rouage, beaucoup de conseils, beaucoup de contrôle. Ça a été en effet le premier état au monde où le gouvernement a été aussi bien contrôlé par une multitude de conseils et de conseillers. Et cette Venise devient à ce moment-là le modèle idéal d'une ville qui n'est où il y a des éléments de démocratie, parce qu'on tient compte des assemblées du peuple, des éléments d'aristocratie, parce qu'en définitive, les conseils les plus importants sont entre les mains d'un certain nombre de familles seulement, et de monarchie, parce que il y a à la tête de tout ce magnifique édifice un doge, n'est-ce pas, qui est couvert d'or et qui a une magnifique chapeau à cornes que on voit sur toutes les peintures. Et cette mythe a beaucoup parlé à l'imagination du monde entier. Et il accompagnait des gravures, des tableaux qui représentaient Venise, cette ville merveilleuse au milieu des eaux.
Je voudrais vous demander si Genève du XVIe siècle, avec son Calvin en tête, est arrivée à ce stade de former un vrai corps où chacun avait sa petite place et qui agissait en une certaine harmonie.
Oui, dans une certaine mesure, c'est une réalisation partielle de cet idéal chrétien, parce qu'on sait bien que l'idéal chrétien est difficilement réalisable en ce bas monde. On a affaire à des hommes qui ne sont pas parfaits. Et il y a eu plusieurs épisodes et plusieurs stades de ce perfectionnement qui s'est installé à Genève sous l'inspiration de Calvin. Un des principaux moments de crise a été le coup d'État de 1555. Voilà ce qui s'était passé. Genève était, les Genevois d'origine étaient, au fond, trouvaient que la réforme que les Bernois et Zurichois avaient apportée en 1535 était bien suffisante comme ça et qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter, d'ajouter des perfectionnements comme le consistoire qui était là pour surveiller l'attitude de chaque habitant de la ville et de vérifier s'il connaissait bien son catéchisme et s'il avait bien compris les vérités de la foi. Et trouvait ce consistoire pesant, et son habitude d'excommunier ceux qui n'étaient pas sages, une véritable tyrannie. Et quelques magistrats qui représentaient cette tendance qu'on pourrait appeler conservatrice ont voulu s'insurger contre Calvin et le parti calviniste et ont fomenté un coup d'État. Mais ils n'avaient pas pensé à une chose, c'est que dans les années immédiatement précédentes, beaucoup de réfugiés étaient arrivés de France surtout et un peu d'Italie, disons du sud de l'Europe, quelques Espagnols. Et ces gens-là étaient devenus citoyens de Genève. Par conséquent, ils votaient aussi. Et quand on a voté l'élection des syndics, une fois par an, voilà que le parti calvinien a obtenu une très nette majorité. Et les vieux Genevois étaient sidérés, n'en croyaient pas leurs yeux, Et alors ont voulu faire une émeute, un mouvement populaire, s'emparer de l'hôtel de ville. Ils étaient dirigés par un dénommé Perrin, et il y avait là aussi Philibert Berthelier, fils de l'ancien Philibert Berthelier, qui avait été héros de la liberté de Genève au début du XVIe siècle, et qui par conséquent avait une grande réputation. Mais ces gens-là ont été déconfits. Le syndic Aubert a réussi à rétablir le calme. On a arrêté les plus factieux. Les autres ont été exilés chez messieurs de Berne. Et voilà une sorte de purge, comme on dirait de nos jours, qui a été effectuée par la force des choses à un moment donné, et Genève est devenue, à partir de ce moment-là, plus que jamais la ville des réfugiés, donc une ville qui était beaucoup plus prête à suivre les conseils de Calvin. Il y a un grand historien américain, Philippe Bénédicte, qui dans son livre termine son chapitre sur Genève en disant le potier était habile, le potier c'est Calvin, n'est-ce pas? Le potier était habile, mais il avait affaire à un argile très malléable.
D'après ce que vous dites, on a déjà l'impression que Calvin s'est imposé comme un prophète à Genève. Mais s'il s'est imposé, est-ce qu'il l'est resté dans les décennies suivant immédiatement sa mort en 1564?
Eh bien, en effet, après la mort de Calvin en 1564, son successeur Théodore de Bèze a continué à professer exactement la même doctrine, en la développant sur certains points un peu plus que Calvin l'avait fait, mais enfin en maintenant exactement le pur enseignement de Calvin. Il avait le sentiment que la vérité était ainsi faite, elle était dans les livres de Calvin. Mais Théodore de Bèze avait peut-être plus d'art diplomatique, il savait mieux parler aux grands de ce monde, il savait très bien comment il fallait faire pour parler à la reine de France ou à la reine d'Angleterre, et encore mieux, il savait ce qu'il fallait dire aux magistrats de Genève. Et c'est pour ça que les magistrats de Genève l'aimaient bien et l'écoutaient volontiers, plus volontiers que ses collègues, qui eux, quand ils venaient devant le conseil, prenaient tout de suite un ton revendicateur et aigre, que les conseillers trouvaient très désagréable.
Cité Culture, du lundi au vendredi, de 16h30 à 17h15.
On va faire un bond dans le temps assez considérable, et envisageons le XVIIIe siècle. Donc déjà, le mythe est peut-être moins consistant à Genève, mais quand même il subsiste. Par contre, c'est très intéressant de voir le contre-mythe de Genève en France des Lumières. Je pense principalement à l'attitude de ce grand philosophe qui est Voltaire en ce temps-là. Et avec Voltaire, nous sommes vraiment dans la logique du contre-mythe, puisque ce philosophe, il attaque la facette la plus importante, la plus sensible peut-être du mythe de Genève, qui est la facette religieuse. Il célèbre le très hérétisant Michel Servette, victime de Calvin, aux dépens de Calvin lui-même. Puis, je voudrais justement vous demander quelles étaient les invectives voltairiennes contre la cité de Calvin, et est-ce que l'intention de Voltaire d'acheter une propriété à Delice puis à Ferney n'avait pas comme but, en fin de compte, justement d'attaquer le mythe?
Eh bien, écoutez, vous citez Voltaire le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est vrai que Genève continue à être un endroit mythique, parce que Genève avait joué ce rôle au moment de la Réformation et dans l'Europe protestante. Mais au XVIIIe siècle, on a souvent d'autres préoccupations, Genève a aussi l'aspect à ce moment-là d'une république, d'un endroit où règne une certaine liberté économique aussi, et qui fait l'admiration de beaucoup de gens. Et Voltaire est venu à Genève attiré par le mythe de Genève. Donc, lui qui l'a combattu, comme vous l'avez remarqué très justement, il a aussi été très sensible. Il n'est pas allé se réfugier à, je ne sais pas moi, à Tübingen ou bien à, n'est-ce pas, ou à Oxford, mais il est venu à Genève. Évidemment, on y parlait français. Et ce qui l'agaçait à Genève, au bout de quelques années de séjour, c'est évidemment le consistoire. Mais pourquoi le consistoire? Parce que le consistoire interdisait de jouer du théâtre. Et Voltaire aimait beaucoup le théâtre et trouvait que c'était absolument barbare d'empêcher les gens d'aller au théâtre ou de ne pas ouvrir le théâtre. Alors, il donnait des pièces de théâtre chez lui et il invitait tous les Genevois.
Oui, à faire
et le consistoire n'osait rien dire parce que ça se passait chez une personne privée. Alors, on faisait discrètement quelques exhortations, mais qui n'avaient aucun effet. Et à la fin, lassé de ces discussions, Voltaire a quitté sa maison des Délices, qui était à Genève, pour acheter en effet le château de Ferney, où il était juste en dehors des limites de la République de Genève. Et alors là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il a organisé un théâtre très bien fait, où on jouait surtout ses tragédies à lui, et il invitait les Genevois qui venaient à pied à Ferney pour assister à la représentation. Et on le raconte que dans son... en dessus de la porte d'entrée, où il y avait son cabinet de travail, il regardait par la fenêtre les Genevois qui arrivaient les uns derrière les autres dans la grande avenue du château, et il disait « Voilà les souverains qui viennent à pied ».
Ah ouais.
Pourquoi est-ce qu'il disait « les souverains qui viennent à pied » Parce que chaque fois qu'on réunissait le Conseil général à Genève, l'Assemblée de tous les citoyens, une assemblée qui avait très peu de pouvoir d'ailleurs, le premier syndic leur adressait un discours qui commençait par « Magnifique, puissant et souverain Seigneur ». Parce que, en principe, le souverain, c'était le peuple.
Ah oui, tout à fait. Donc, il semble que le mythe de Genève et de Calvin est resté quand même de taille en ce XVIIIe siècle pour que, on jugeait justement de l'acharnement de Voltaire, de l'ambition personnelle qu'il induit dans cet acharnement, dans ce pari contre le mythe de Genève, semble-t-il.
Oui, il y a une pièce en vers qui s'appelle « La guerre civile de Genève » de Voltaire, qui a paru à l'époque de façon anonyme, et qui contient toutes sortes de critiques contre les Genevois et contre les églises protestantes, et qui se moque des psaumes qui sont chantés de manière discordante, et dit dans ses petits vers qu'il croit que la mauvaise musique plaît au Seigneur.
Oui.
Enfin, ça, oui, c'est pour Voltaire. Il y a eu d'autres éléments du mythe de Genève au XVIIIe siècle, donc ce mythe qui change peu à peu d'aspect, qui devient le mythe d'une ville éclairée, d'une ville moderne. Et c'est l'article Genève d'Alembert dans la Grande Encyclopédie, qui est un très bel éloge de Genève, de son art, de la marchandise, de ses banquiers, de ses marchands, de ses écoles, etc. Mais qui dit assez méchamment, les pasteurs ont beaucoup changé d'avis depuis l'époque de la Réformation, ils ne s'embarrassent plus des mêmes dogmes qu'avant, et on peut même dire qu'ils sont pratiquement tous sociniens. Alors, ce mot de sociniens qui désigne des hérétiques affreux, qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ, on fait sauter en l'air tous les pasteurs de Genève et tous les Genevois, et ont chargé Jean-Jacques Rousseau, fils de la ville, d'écrire quelque chose pour rectifier cette affreuse calomnie, qui n'en était peut-être au fond pas tout à fait une. Alors, Jean-Jacques Rousseau a écrit les lettres de la montagne contre cet article de D'Alembert, en exaltant sa ville natale comme ayant gardé quelque chose de la pureté de la nature, des habitants des Alpes, des montagnes, c'est pour ça que ça s'appelle « Lettre de la montagne ». Et Jean-Jacques Rousseau a infléchi le mythe de Genève du côté de cette nouvel espoir que la liberté s'incarne particulièrement dans les endroits où la nature est plus est mieux respectée que dans les plaines et les grandes villes. Et alors là, on rejoint tout à fait un mythe rousseauiste de Genève.
Oui,
et chose intéressante, qui s'intéresse alors naturellement au paysage genevois, au lac, aux montagnes, à la vue du Mont Blanc qui est au fond et qu'on admire de loin. Et c'est à ce moment-là que Genève intéresse les gens aussi et surtout à cause de sa position géographique, chose dont au XVIe siècle on ne se préoccupait pas du tout.
Oui, Jean-Jacques Rousseau qui d'ailleurs critiquait aussi beaucoup Voltaire, n'est-ce pas, à cause de la réhabilitation du théâtre dans cette ville très vertueuse.
Justement, il a dit, si les Genevois n'ont pas de théâtre, c'est précisément parce qu'ils ont encore un certain sens de la liberté primitive et qu'ils savent que ces perfectionnements de la civilisation sont déplorables et vont gâter leur naturel.
Oui, et lorsqu'on parle du XVIIIe siècle, on l'assimile surtout aux Lumières. Mais il y a un autre phénomène qui concerne les pays protestants, un grand phénomène qui est le réveil. Le réveil, il y a plusieurs réveils dans le monde protestant, mais celui-là, il était vraiment de taille. On pourrait le constater aux Pays-Bas, en Écosse, en Angleterre et bien sûr en Amérique déjà, où des missionnaires calvinistes étaient passés déjà au XVIIe siècle, ont introduit la pensée, les dogmes, la doctrine calvinienne. On ne peut pas dire que l'attachement aux valeurs calvinistes, ou bien au contraire leur rejet, pourrait constituer un critère de démarcation entre une manière de penser et d'agir que aujourd'hui on appelle conventionnellement européenne, qui est très influencée par les Lumières, et puis une autre pensée, une autre vision du monde, de Dieu, de l'univers, qui se réclame plutôt du réveil et indirectement de Calvin, en fait, et qu'aujourd'hui nous appelons plus américaine. Est-ce que vous voyez là un critère qui serait fait?
Oui, mais le réveil est arrivé à Genève vers 1800, n'est-ce pas? Vraiment pas avant l'extrême fin du XVIIIe siècle. Alors qu'il avait commencé, vous avez raison, en Angleterre, au milieu du siècle, par les prédications de divers grands prédicateurs anglais. Et le réveil a en effet donné lieu à Genève à une réaction. Il y a eu beaucoup de jeunes voix, des plus considérables et des plus considérés, qui ont adhéré au réveil et qui se sont trouvés dans l'obligation de créer une église indépendante, l'église libre, à côté de l'église officielle, l'église nationale de Genève, qui, elle, était trop marquée par la philosophie du XVIIIe siècle, à leur avis. Et cette église libre a duré jusqu'au début du XXe siècle, avec sa propre faculté de théologie, où on a formé d'éminents théologiens, selon une théologie qui est en effet beaucoup plus proche de celle de Calvin, que celle qui était pratiquée dans les milieux qu'on appelle libéraux, qui ont dominé au XIXe siècle. C'est assez curieux. À ce moment-là, Genève n'est plus une ville calviniste, mais c'est une ville protestante dans laquelle il y a un noyau de calvinistes.
Déjà.
C'est une sorte de minorité de calvinistes.
Tout à fait. Pensons un tout petit peu à l'Amérique qui reste un peu occultée et qui est quand même très concernée par le calvinisme. Donc Max Weber, dans son ouvrage de référence, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, dit que si la réforme a été marquée d'une grande et considérable manière par la personnalité de Luther, elle doit sa durée extérieure surtout à Calvin et au calvinisme. Et il dit que l'Amérique, les États-Unis, a été foncièrement calviniste au moins jusqu'au début du XXe siècle, où déjà une grande vague d'émigrés européens a déferlé et une européisation des mentalités américaines survient, déjà dans le sens d'une plus grande influence des valeurs humanistes et athéistes. Mais quand même, il y a au moins une moitié de l'Amérique qui reste chrétienne, calviniste, justement. Et cette Amérique n'a jamais été à négliger, tout au contraire. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, Monsieur Alain Dufour, que là où Calvin est vraiment suivi et imité de nos jours, là on se désintéresse de sa personne, de son nom même, alors que là où l'essentiel de son enseignement est déjà négligé, presque oublié, on le célèbre, on le mythifie. C'est
ça qui... je ne connais malheureusement pas très bien la situation de l'Amérique, je ne suis pas spécialiste d'histoire américaine, mais en effet, il y a dans l'Amérique actuelle beaucoup d'esprits religieux, mais il faut bien dire de toutes les religions, n'est-ce pas ? Ce qui caractérise une petite ville américaine, c'est que autour de la place centrale, il y a une chapelle d'adventistes, une chapelle de ceux-ci, une chapelle de mormons, une chapelle de... Bref, toutes les confessions sont représentées et sont les unes à côté des autres et font, ma foi, pas trop mauvais ménage, semble-t-il. Là, qu'il y ait beaucoup de calvinistes, oui, sans doute, mais je ne crois pas non plus qu'ils aient si tant oublié le nom de Calvin, parce que il y a par exemple à Grand Rapids un institut d'études calviniennes qui est très très sérieux et où on étudie très bien Calvin, où on publie régulièrement des traductions en anglais de chacune de ses œuvres, et où on fait des colloques et des réunions sur des problèmes d'histoire de la pensée de Calvin. Et il y a là un centre qui rayonne beaucoup en Amérique, qui a une grande influence, je crois, dans beaucoup d'endroits d'Amérique, et qui en forme des pasteurs, n'est-ce pas, de toutes sortes. Voilà ce que je peux dire, mais peut-être qu'en effet, il y a plus de théologie de Calvin actuellement en Amérique qu'à Genève. Il y en a plus aussi en Corée du Sud, par exemple, où il y a des universités qui sont très, très calviniennes. Et c'est ainsi que les idées théologiques, comme toutes les autres idées politiques ou autres, voyage à travers le monde. À une époque, ils sont là, à une autre époque, ils sont ailleurs.
Quand même, est-ce que vous n'avez pas l'impression que là où l'on rejette quelqu'un comme prophète, finalement, on le mythifie? Est-ce qu'on ne mythifie pas un tout petit peu par un certain remords aussi, de ne pas avoir célébré quelqu'un comme prophète, de ne pas l'avoir suivi?
Alors là, vous parleriez de mythe à propos d'un individu, n'est-ce pas? Il s'agit de faire un mythe autour de la personne de Calvin. Ce serait une sorte d'exaltation ou d'agiographie, qu'il faudrait appeler ça plutôt agiographie ou exaltation d'une personnalité. Je préférerais, en ce qui me concerne, qu'on garde le mot mythe pour des situations qui concerne des populations entières et des vraies situations historiques.
Oui, tout à fait.
Pas plutôt que le destin d'un individu.
Oui, vous avez absolument raison. Merci beaucoup, Monsieur Alain Dufour, de votre présence.
Merci aussi.